With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Quand je me suis retournée, Émile était par terre et hurlait, et la casserole était par terre. Et c'est là le moment de rupture, là, le plancher qui s'effondre. Tout s'arrête.
Ce qui est important, c'est de dire que ça peut arriver à tout le monde. Le métier de parent est un métier très difficile. Bien sûr qu'il faut sécuriser, mais il ne faut pas non plus l'entraver dans ses découvertes.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Marie.
Bonjour Mathilde.
Je vous en prie, installez-vous.
Merci.
Alors Marie, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?
Alors Mathilde, j'aimerais vous parler d'une expérience un petit peu douloureuse, ce qu'on appelle un accident domestique. Mm-hmm. Le terme accident d'ailleurs est plutôt bien choisi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un accident, la route ou autre, mais... En tout cas, c'est comme une rupture dans la continuité de vie. Et cet accident domestique, bah, donc, c'était à la maison, comme son nom l'indique, dans la cuisine, avec mon fils, qui à l'époque avait 2 ans et demi.
Ouais.
Et voilà, je crois que j'aimerais bien pouvoir un petit peu échanger avec vous à ce sujet.
Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, ce jour-là, dans la cuisine ?
Donc, comme d'habitude, j'allais chercher mon fils le dernier à la crèche, c'est-à-dire vers 19h25. On rentre à la maison, qui est proche de la crèche. Je lui prépare à manger, comme souvent, des pâtes. On est tous les deux dans la cuisine. J'arrête les plaques. Les pâtes étaient dedans. Émile me dit « je veux regarder ». Il prend un tabouret et moi, je me retourne. Je suis face à un meuble qui s'appelle un vaisselier. J'ai eu un mouvement de suspension. Et je ne me suis pas écoutée. J'ai continué. Je ne me suis pas retournée. Et j'ai pris les assiettes. Et quand je me suis retournée, Émile était par terre et hurlait. Et la casserole était par terre. Et c'est là le moment de rupture, là, le plancher qui s'effondre. C'est-à-dire que la continuité, normalement, voilà, il mange, etc. Là, c'était...
Tout s'arrête à ce moment-là.
Tout s'arrête. Une vraie rupture. Et donc, il criait. Et moi, sur le coup, je crois que j'ai crié aussi. Enfin, j'étais un peu en panique. Et je l'ai tout de suite. Il était... parce que souvent, quand on arrive à la maison, on se déshabille. Donc, il était en couche. Et je l'ai tout de suite pris dans mes bras et je l'ai tout de suite mis sous l'eau, immédiatement. Et pendant ce temps-là, j'ai fait couler de l'eau dans la baignoire. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé d'abord une amie, collègue, et ça répondait pas. Et ensuite, pendant que j'appelais un autre proche, qui est le compagnon du parrain de mon fils... Je ne savais même plus le numéro du SAMU, donc j'ai regardé sur Internet, j'ai appelé le SAMU. Et là, la pédiatre, donc je lui explique voilà, que je suis médecin, je suis psychiatre, que mon fils a 2 ans, qu'il vient de se brûler, c'est assez étendu, avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante, et que je l'ai mis dans un bain d'eau froide. Et là, elle me dit, faut faire venir les pompiers, ça va prendre du temps, donc amenez-le à l'hôpital en taxi. Et j'ai quand même trouvé ça un peu bizarre sur le coup, mais j'ai suivi son conseil. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas l'habiller. Elle me dit, non, vous le prenez tout nu, vous l'enroulez dans une serviette et vous allez à l'hôpital. Et entre-temps, j'ai réussi à voir Thierry, le compagnon du parrain Duc, qui m'a dit qu'il me retrouvait à l'hôpital. J'ai pris 2-3 affaires et je suis descendue avec Émile, nue dans une serviette, hurlant. J'ai eu relativement de la chance parce que juste en bas, il y a un taxi qui est arrivé. Et Émile pleurait. Moi, à l'époque, je l'allaitais toujours un petit peu. Il n'arrivait même pas à téter le sein. Le taxi était un peu en panique, très gentil, mais un peu en panique, ne comprenant pas qu'on soit là, dans un taxi. Et donc on est allé aux urgences de l'hôpital Trousseau, c'est là où mon fils est né. Et là, aux urgences, ils nous ont tout de suite pris en charge, évidemment. Un infirmier lui a tout de suite donné un antalgique, de la morphine. Et Thierry était déjà là, il nous attendait. Et la réa est venue, qui m'a dit que, bon, à vue d'œil, comme ça, c'était quand même étendu, mais qu'a priori, le pronostic vital n'était pas engagé, qu'il n'y avait pas besoin de réa, que ça allait aller, que la peau, ça a évolué relativement vite. Elle m'a plutôt rassurée, blaguant un peu sur le fait que je sois médecin psychiatre et que ça peut aussi arriver à des soignants.
Ça vous a rassuré, ce qu'elle vous a dit ?
Oui, ça m'a rassuré. Le fait qu'il n'ait pas besoin d'aller en réa, déjà, c'était que ça allait. Elle était plutôt sympathique et plutôt rassurante. Le fait que Thierry soit là aussi, je pense que c'était quand même bien. Je ne sois pas toute seule. Voilà, mais je me sentais quand même très désemparée, très impuissante. Et puis, voir Émile avoir mal, évidemment, c'était horrible. Et je me sentais rassurée d'être à l'hôpital. C'est là où il est né. J'étais à la fac à Saint-Antoine, donc j'avais été externe à Trousseau aux urgences. Donc quelque part, il y avait quelque chose de familier quelque part dans cet hôpital déjà de prime abord. Et j'ai tout de suite été extrêmement en confiance au niveau des soins. Donc on est monté dans une chambre. Alors, ce qui était pénible au début, c'était qu'on était dans une chambre à deux. Il y avait une autre famille. C'était un peu pénible parce que, enfin, moi, je sais que quand je vais pas bien, je suis plutôt du mode retrait, quoi. Enfin, et voilà, je crois que j'avais besoin d'être un peu comme dans une bulle avec mon fils. Et c'était une dame qui parlait. Elle était pas méchante dans le fond, mais qui parlait beaucoup et c'était un peu pénible. Puis elle avait des problèmes pour dormir, enfin bref. Donc au bout du 3e jour, ça a clashé, parce qu'à minuit, elle continuait à faire son cirque avec de la lumière, etc. Et on nous a changé de chambre après, c'était beaucoup mieux.
Donc là, ce que vous dites, Marie, c'est que vous avez été hospitalisée avec votre fils, vous avez pu rester auprès de lui tout le temps nécessaire.
Oui. Lui était dans son lit, et en fait, je dormais sur un matelas par terre, à côté. En fait, c'était une véritable obsession. Je ne pensais qu'à ça, qu'à mon fils. Comment il allait, comment faire pour qu'il vive cette hospitalisation le mieux possible. Et qu'il y ait la présence constante d'un adulte. Moi, j'ai quand même repris le travail assez rapidement, parce que je suis en libéral, au bout du 2e jour. Et il y avait tout le temps quelqu'un avec lui, tout le temps un adulte. C'était hors de question de le laisser seul. Les infirmières me disaient, mais écoutez, il y a des parents qui laissent les enfants. Alors, ça me semblait absolument démentiel. Déjà qu'en tant que parent, Je me sentais bien sûr coupable de pas m'être écoutée. Et du coup, de pas avoir empêché cet accident. Donc, il n'était pas question de laisser mon fils seul. Enfin, je vois, c'était pas possible. La journée, j'allais travailler. Je revenais chez moi prendre une douche. Puis après, je retournais à l'hôpital. Et on faisait des relais, du coup, avec Thierry. Et puis avec mon ex-compagnon, qui habite en Bretagne, mais qui est revenu. Ça a fait beaucoup de bien à Émile qu'il soit là. J'ai dormi 10 jours. Et lui a dormi 3 jours. Donc, ça m'a fait un relais. Donc, je ne me suis pas sentie seule, même si je pense que, voilà, en tant que parent, j'étais la plus concernée quelque part, mais ça m'a fait du bien d'avoir un peu un extérieur. Il n'y avait que quand je travaillais que j'arrivais à ne pas y penser, sinon j'étais en permanence envahie. Vous savez, en médecine, ce n'est pas une science exacte, donc chacun a un peu sa méthode, sa vision des choses. Et en tout cas, leur vision du traitement à trousseau, je l'ai trouvée très... Voilà, très bonne, a priori. C'est-à-dire que, en fait, leur principe, c'est de dire on laisse la nature faire. Et à partir du moment où la nature ne fait pas son job, à ce moment-là, on intervient. C'est-à-dire que pas de pansement, en dehors des traitements antalgiques, pas de traitement, juste un peu désinfecter comme ça les lésions. Mais le but, c'était de sécher les lésions. Donc, il était en permanence sous une lampe chauffante. Jour et nuit, le but étant de sécher les lésions, qu'il y ait une croûte qui se forme, et quand la croûte s'en va, en fonction de comment est la peau en dessous, il décide d'intervenir ou pas. Si la peau est correcte, ça veut dire que tout va bien. Si ça s'est pas bien remis, à ce moment-là, ils interviennent. Mais du coup, jusqu'à ces 10 jours, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas s'il va y avoir... Et jusqu'à la veille de notre sortie... Ils avaient prévu un bloc, parce qu'il restait un bloc opératoire, parce qu'il restait une petite partie qui n'arrivait pas bien à se remettre. Donc jusqu'à la fin, on n'était pas sûr qu'il n'y ait pas une intervention chirurgicale, une greffe.
Donc il y avait toute cette incertitude aussi à gérer, de comment ça allait évoluer, comment votre fils allait guérir, allait aller mieux.
Exactement. Est-ce qu'il y aurait des séquelles ?
Une opération.
Voilà, donc en gros, le déroulé de la journée, c'est, pour être précis, à 7h30, il y avait une dame qui passait faire du ménage. À 8h moins le quart, il y avait une visite, une première visite des médecins. Ensuite, ils donnaient un traitement antalgique à Émile avant la douche. Ils appelaient ça le bain, mais en fait, c'était plutôt une douche. Donc, il lui donnait de la morphine avant la douche. Le principe de la douche étant d'enlever les cellules mortes. Donc, il faut un peu frotter. Donc, un peu douloureux, je pense. Et moi, j'étais toujours là à la douche, bien entendu. Voilà. Et puis, après la douche, Émile était dans sa chambre. Donc, constamment sous la lampe. À la maison, on n'a pas de télé. Donc, du coup, il a eu droit à la télé. Regarder des dessins animés, les repas.
Comment il a vécu, votre fils ? Comment vous avez l'impression ? Est-ce qu'il a pu vous en dire quelque chose ? Parce qu'il était quand même petit, 2 ans et demi.
Alors, il y avait une psychologue aussi dans le service et j'avais demandé à la voir. Encore une fois, dans l'idée que ça se passe au mieux. Je pense qu'il y a eu plusieurs temps pour Émile. Après, je ne suis pas dans sa tête. On a parlé avec Émile et Émile revient sur le fait que là, il a bien compris la dangerosité de l'eau chaude, des plaques. Et il fait référence de temps en temps au fait qu'il a eu une brûlure causée par de l'eau bouillante. Je pense qu'au tout début, où vraiment on était très collés tous les deux, peut-être que j'étais tellement trop collée à ce moment-là, les premiers... J'ai recommencé au bout du deuxième ou troisième jour à travailler. Donc, au tout début, on était vraiment recollés, quoi. Enfin, du coup, je l'allaitais. Du coup, ils ont très bien géré... Enfin, à partir du moment où il était à l'hôpital, ils ont très bien géré la douleur. Donc, a priori, voilà, il n'avait pas une manifestation douloureuse. Il dormait bien. Au début, il mangeait correctement. Et puis le fait que Pascal arrive, je pense que ça l'a beaucoup rassuré, mon ex-compagnon, la présence de Thierry aussi. Il y a eu un moment, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la peau réagit extrêmement vite. On me l'avait dit, mais je l'ai expérimenté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la peau devient genre un peu poulet rôti, si je puis dire. Enfin, voilà, un peu brun. Puis, ça passe par des couleurs très différentes. Et alors, je sais pas, c'est peut-être mon interprétation, mais enfin, voir son corps changer comme ça, parce qu'encore une fois, c'était quand même relativement étendu, c'était tout l'abdomen, toute la cuisse droite jusque en dessous du genou. Il y avait aussi au niveau des avant-bras et au niveau d'une main, donc c'était quand même étendu. Il y a eu un moment où un moment d'âne, un moment où il réagissait moins. C'est là où j'ai demandé à voir la psychologue. Il mangeait moins. Il y a la diététicienne du coup qui est venue pour essayer de d'améliorer les repas qui étaient en somme toute relativement corrects, mais d'essayer de faire en sorte que de lui donner des choses qu'il aime et puis surtout surtout qu'il perde pas trop de poids parce que évidemment c'est très consommateur d'énergie du coup la brûlure donc au niveau du métabolisme donc il faut avoir du carburant si je puis dire. Donc il y a eu un moment quand même un peu d'âne où je pense qu'il réalisait qu'il y avait un problème. Et puis peut-être que ça commençait peut-être à devenir un peu long aussi. Je pense qu'il en avait peut-être un petit peu marre. Et puis de ne pas pouvoir sortir, donc il ne sortait pas de sa chambre. Donc au début, il était alité tout le temps. Puis après, il marchait dans sa chambre, mais il n'est jamais sorti de sa chambre pendant 13 jours. Je pense que de ne pas avoir de lien avec les copains de la crèche... Je pense que ça n'a pas forcément été simple non plus, parce qu'il est plutôt sociable comme petit garçon. Et puis après, c'est remonté. Après, ça a été mieux. Moi aussi, je pense que je fatiguais aussi à un moment donné. Enfin, dormir par terre, dans mon sac de couchage, sur des coussins, c'était quand même pas top non plus.
Comment ça s'est passé une fois que vous êtes rentrée à la maison ?
Une fois qu'on est rentrée à la maison, il n'a pas repris la crèche tout de suite. On m'avait conseillé de... d'avoir un petit temps de récupération un peu à la maison. Fallait aussi que la maison soit quand même un peu propre, parce que du coup, moi, j'ai pas forcément eu le temps de faire du ménage, franchement. Il nous avait proposé, du reste, de faire une permission à un moment donné. Mais à ce moment-là, le bloc était prévu. On avait vu l'anesthésiste. En fait, moi, j'ai préféré rester à l'hôpital. Je pense que pour Émile, de faire l'aller-retour... on sort de l'hôpital, on rentre à la maison, on revient à l'hôpital, on est éventuellement opéré, on rentre... Enfin, certes, pour moi, j'aurais pensé qu'à moi, bien entendu, je serais rentrée à la maison, c'est clair. Mais vis-à-vis de mon fils, je me suis dit, il va pas comprendre. Et puis quand même, quelque part, pour moi aussi, je préférais me dire, quand on part de l'hôpital, la page est tournée, c'est terminé. Il n'y a pas à y revenir, bien sûr qu'on y retournera en consultation pour le suivi, mais on tourne la page, quoi.
Ok, merci beaucoup Marie. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte, le docteur Annie Elbez. Bonjour Annie Elbez, vous êtes pédiatre à Maison Alfort, vous avez été praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Créteil en néonatologie, coordinatrice pédiatrique d'un réseau de suivi d'enfants prématurés dans le Val-de-Marne. Vous faites partie d'un groupe de recherche clinique en pédiatrie et de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'AFPA. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne des parents qui s'interrogent sur la façon de protéger au mieux leurs enfants, notamment par rapport au risque des accidents domestiques, comme vient de nous en témoigner Marie. En France, chaque jour, 2000 enfants de 0 à 6 ans sont victimes d'accidents de la vie courante. Sur une année, on estime à près de 740 000 le nombre d'accidents de la vie courante dans cette tranche d'âge qui entraîne une consultation aux urgences hospitalières. Pour les jeunes enfants entre 0 et 4 ans, l'intérieur de la maison représente le lieu principal où a lieu les accidents à plus de 80%. Et donc, face à tous ces risques et à cette réalité, je vois des parents qui vont changer entièrement l'intérieur de leur maison, qui vont être extrêmement parfois anxieux. Et puis, pas toujours, ils ne savent pas toujours quoi faire de manière adaptée, tant en termes de prévention qu'en termes d'action, quand un accident surgit. Et Marie nous l'a bien dit, voilà, qu'il y a quelque chose d'une rupture, on peut se sentir perdu et plus perdre tous ses repères, ses réflexes et plus savoir comment réagir. Tout d'abord, Annie, quand on parle d'accident domestique, de quoi on parle ?
Alors, en fait, ce sont des accidents qui surviennent dans le cadre de la vie familiale. Et comme vous l'avez dit, c'est assez fréquent. C'est 2000 enfants chaque jour entre 0 et 6 ans. Et c'est la première cause de mortalité infantile. Donc, c'est important qu'on en parle. Et vous avez tout à fait raison de souligner que on a des messages à transmettre aux parents. Avant l'âge de la marche, à moins d'un an, sont surtout des chutes, des fausses routes. Et puis après un an, les chutes, les brûlures, comme Marie vient de témoigner, des défenestrations, des intoxications et des noyades. Alors les pièces les plus dangereuses sont la cuisine et la salle de bain. Ce qui est important, c'est de dire que ça peut arriver à tout le monde. Parce que ça va très vite, très très vite. Et il y a, comme vous l'avez bien dit Marie, c'est l'instant d'avant et puis l'instant d'après. Et on est tout le temps en train de revisiter en permanence le scénario, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, etc. Et c'est toujours vécu comme une faute. Et peut-être que nous avons effectivement des choses à dire là-dessus. Voilà.
Oui, vous nous avez, on a bien entendu, hein, Marie, la culpabilité que vous ressentez, la responsabilité que vous ressentez par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que, Annie, l'approche face au danger va se faire de la même manière pour tous les enfants ?
Alors, non, bien entendu, parce que ça va dépendre un petit peu de l'âge de développement de l'enfant. On a d'une part, sécuriser son espace, bien entendu. Et puis, en fonction de l'âge du développement, de lui apprendre, en fait, comment éviter les dangers. C'est-à-dire qu'on a un rôle de prévention. Alors, ça sera très différent si l'enfant marche ou s'il ne marche pas. Et donc, on va aborder les choses en faisant ce qu'on appelle une éducation progressive, en essayant de faire entrer dans la tête de ces petits-enfants des messages, des explications simples et des gestes simples et des dangers à éviter dans la maison. Voilà. Donc tout ceci se fait de manière progressive.
Comme vous dites, évoluer en fonction de l'âge, de son développement, voilà. Et donc de son âge. Comme vient de nous en témoigner Marie avec l'accident de son fils, les brûlures sont voilà, des accidents vraiment, vraiment terribles. Pour Marie, voilà, son fils est brûlé avec de l'eau bouillante, mais dans une maison, il y a plein de manières peut-être de se brûler. Avec quoi un enfant peut se brûler dans une maison ?
Alors, il peut se brûler de différentes manières. Et c'est vrai que la cuisine, c'est vraiment un endroit à risque. Mais la salle de bain aussi, et le bain, on en parlera. Alors, il peut se brûler en buvant un liquide trop chaud, ou en renversant une casserole, ou un récipient qui est rempli d'un liquide ou d'un aliment chaud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la peau des enfants est très, très sensible, et qu'il faut seulement 3 secondes pour qu'il y ait une brûlure au 3e degré avec de l'eau à 60. Et je pense que Émile avait sûrement des brûlures de 2e degré profond et de 3e degré sûrement.
Alors, la surface, c'était 10%.
Oui, et donc une brûlure étendue.
La profondeur, c'est jusqu'à 2 intermédiaires.
Voilà.
D'accord. Mais il n'y a pas eu de 3.
Il n'y a pas eu de
3. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de greffe.
Exactement.
Sinon, il y aurait eu greffe.
En tout cas, là, du coup, vous nous donnez quelques indices pour évaluer la gravité de la brûlure, la question de la profondeur,
la surface,
l'étendue,
voilà,
et puis
de l'âge. Exactement.
Plus l'enfant va être jeune, plus c'est un élément. Voilà,
exactement.
À prendre
exactement.
En compte.
On a vu qu'il pouvait ingérer donc des aliments trop chauds. On a vu qu'il pouvait aussi jouer avec des flammes, jouer avec des appareils de cuisson dans la cuisine. Et puis il y a certaines brûlures qui se produisent dans le bain. Donc en fait, les messages sont les suivants, c'est-à-dire que à chaque instant, votre enfant soit sous surveillance un petit peu. Et c'est ça qui se passe pour Marie, vous l'avez lâché 3 secondes. Voilà, et ça suffit. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser, par exemple, un enfant seul dans son bain. Il pourrait se noyer, mais il pourrait aussi se brûler, par exemple, simplement en ouvrant le robinet d'eau chaude. C'est la raison pour laquelle on conseille d'avoir des mitigeurs réglés à 37 degrés, de mettre le coude dans l'eau pour tester la température, et effectivement, l'eau du bain doit être à 37 degrés. Les objets chauds, il faut éloigner l'enfant des appareils électroménagers chauds, les plaques de cuisson, les fers à repasser, les ampoules électriques, les appareils de chauffage, etc. Et grosso modo, il ne faut jamais laisser un enfant seul dans la cuisine. Il faut lui expliquer que, par exemple, la porte du four est chaude et qu'il faut essayer de lui montrer qu'il ne faut pas trop s'approcher. Il faut essayer donc de se méfier des brûleurs après leur arrêt, des plaques de cuisson, etc. Ça, c'est très important. Donc, il y a des règles à respecter. Surtout pour les petits, et ça, on le conseille beaucoup, de ne pas utiliser, par exemple, de micro-ondes pour chauffer le biberon. Et bien agiter le biberon avant de donner le biberon à l'enfant, tester la température de l'eau, ne jamais laisser des récipients remplis de liquide ou d'aliments chauds à la portée de l'enfant, ne pas poser de plats chauds sur le rebord de la table ou du plan de travail, tourner les queues de casserole vers l'intérieur de la plaque de cuisson.
Et, oui, qu'il n'y ait rien qui dépasse sur lequel l'enfant pourrait avoir prise.
Exactement.
Et malgré lui. Hein,
exactement. Ça va très, très vite. Et par exemple, quand on est en train de boire un thé chaud, etc., l'enfant peut avoir un geste un petit peu maladroit et on peut être un petit peu désarçonné et l'enfant peut se renverser ce liquide sur le corps. Donc, essayez de faire attention à ça et vérifiez que votre enfant ne puisse pas tirer sur une nappe et renverser des liquides ou des aliments chauds. Voilà.
Ok. Du coup, voilà, quand ça arrive, qu'est-ce que le parent peut faire ? Alors vous et Marie, vous dites tout de suite, vous avez mis votre fils dans un bain d'eau froide. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ?
Alors c'est quelque chose qu'il faut faire à condition que l'eau ne soit pas trop froide. C'est-à-dire qu'on préconise une eau tiède en fait, en faisant couler le robinet et en mettant l'enfant dans cette eau tiède. Alors pourquoi ? Parce que ça limite la diffusion de la brûlure et ça calme terriblement la douleur. Vous avez justement parlé des endroits qui sont les plus vulnérables, comme le visage par exemple, les organes génitaux, les mains, le cou, tout ça sont des endroits extrêmement vulnérables.
Combien de temps ? Parce que j'avoue que j'ai plus la notion de temps. Je ne sais pas combien de temps il est resté dans l'eau froide, mais vous conseillez de laisser combien de temps l'enfant dans l'eau froide ? Parce qu'il y a des gens qui disent 20 minutes, d'autres une heure.
Ce qui est préconisé, c'est 15 minutes à peu près.
15 minutes.
15 minutes, c'est aussi le temps de voir comment les choses se passent. C'est-à-dire que l'enfant se calme et puis ça vous laisse aussi le temps d'appeler des secours, etc. Donc 15 minutes, c'est très bien. Voilà. Il ne faut pas que l'eau soit trop froide, comme vous l'avez dit, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle un choc thermique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une espèce de vasoconstriction qui se passe. Et si l'enfant a besoin d'être perfusé secondairement, ça va être compliqué de perfuser un enfant qui a tous ses vaisseaux complètement contractés, en fait.
Voilà. C'est pour ça qu'on pourrait rajouter, par rapport à mon témoignage, ça je pense que c'est important pour les gens de le savoir, c'est que si le pédiatre du SAMU vous dit, vous prenez votre fils tout nu, vous le prenez dans une serviette et vous l'amenez en taxi à l'hôpital, niette. Compte tenu de son âge, quelle que soit l'étendue, parce qu'au début, quand ça se passe, on voit à peu près l'étendue, mais on ne peut pas savoir la profondeur, c'est petit à petit qu'on le sait. Il faut que les pompiers viennent, au minimum les pompiers, quoi.
Exactement. En fait, il faut appeler le 15.
Donc le 15, c'est le numéro du SAMU.
Ou bien le 18, les pompiers. Voilà. Et essayer toujours de la même manière d'être le plus calme possible pour décrire ce qui s'est passé. Dans votre cas, c'était une brûlure quand même assez étendue et assez profonde. La plupart du temps, ça c'est vraiment un traitement dans des centres spécialisés. Vous avez trousseau, c'est très bien, vous êtes très bien tombé et la prise en charge, elle a été excellente. Avec le fait effectivement que vous ayez pu rester avec votre enfant, que vous ayez pu le rassurer aussi, parce qu'un milieu hospitalier, c'est pas toujours... c'est un peu hostile pour un petit garçon de deux ans et demi, quoi. Donc voilà. Alors, quand les brûlures sont moins étendues, moins profondes, on a des gestes à faire. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire refroidir la brûlure, hein, c'est-à-dire que faire couler de l'eau tiède, 15 minutes à peu près, nettoyer la brûlure avec un désinfectant, et puis réhydrater la peau. Alors, on utilise des émulsions, comme par exemple des produits gras, comme de la biafine, à renouveler assez fréquemment. Et il faut absolument pas hésiter à donner des antalgiques, hein, parce que ça fait mal. Hein, donc, dans ces cas-là, du paracétamol, exactement. Il ne faut pas mettre de beurre sur les brûlures. Hein, c'est un peu dans la légende de dire mettez du beurre, ça va calmer.
Des choses grasses, en tout
voilà,
cas.
Voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, la guérison, en fait, se fait sans séquelles au bout d'une semaine pour les brûlures qui sont des brûlures premier degré. Les deuxièmes degrés, c'est plus long, c'est 2 à 3 semaines. Et le plus souvent, ça ne laisse pas de cicatrices. Je ne sais pas si votre enfant a des cicatrices de ces brûlures.
Vous nous disiez, Annie, que la première cause d'accidents domestiques, notamment dans la première année de la vie, ce sont les chutes. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour éviter les chutes ?
Alors déjà, c'est effectivement extrêmement courant, parce que l'enfant va commencer à se déplacer, à explorer son environnement, etc. Donc, il commence à gambader à quatre pattes à partir de 9 mois, et puis commence à tenir debout à partir d'un an. Et donc, l'enfant peut chuter de sa table allongée, toujours pareil, un instant d'inattention. Il peut tomber de sa chaise haute, du canapé, et puis dans les escaliers assez fréquemment. Alors, en fait, dans tous les messages que je vais donner, là, c'est essayer d'arriver avant la bataille. C'est-à-dire la prévention, c'est le mot-clé, en fait. Essayer que l'aménagement de la maison soit propice à ce qui est le moins de danger possible. Alors, par exemple, la table allongée. Ça va très vite, un enfant peut tomber très vite de sa table allongée. Dès qu'il commence à se retourner, dès qu'il commence à avoir une motricité libérée, une seconde d'inattention, il se retourne, il tombe. Et ça peut être très très dangereux parce que la chute peut avoir des conséquences graves. Le plus souvent, c'est banal, sans grand retentissement. Mais ça peut avoir des conséquences graves, et notamment ce qu'on appelle les hématomes sous-dureaux.
Donc, oui, il faut faire tombe sur la tête.
Exactement. Ouais. Donc, il faut y faire très attention. Donc, sur la table allongée, il faut mettre tout à l'avance de ce dont on a besoin pour que on ne soit pas obligé d'aller chercher de l'autre côté le paquet de couches, le désinfectant, etc. Et tout. Et là, c'est ce qui s'est passé pour vous, l'instant d'avant, l'instant d'après, hop, d'un seul coup, il y a une rupture et l'enfant peut se mettre en danger. Donc il y a ça qui est important. Et donc ne jamais le laisser sans surveillance. Sur la chaise haute, il faut qu'il soit bien attaché. Alors ça, c'est aussi des choses qui peuvent arriver. L'enfant va glisser, va pouvoir s'échapper. Et,
oui, il se met debout.
Voilà, il se met debout. Et donc, il faut vraiment bien boucler les attaches. Et dans les escaliers, il faut essayer d'installer des barrières de sécurité en haut des escaliers. Et puis, dès que l'enfant commence à marcher un petit peu, il faut lui apprendre à monter et à descendre les escaliers. Et il faut vraiment ne jamais le laisser seul dans les escaliers tant qu'il ne sait pas se tenir à la rampe. Voilà. Donc, ça, c'est un apprentissage qui va se faire progressivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fonction de l'âge du développement de l'enfant. Et puis, la fenêtre, alors là, c'est danger maximum, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas le laisser seul devant une fenêtre ouverte. Les enfants sont très aventureux. Hein. Il est tout à fait possible qu'ils se mettent à vouloir voir ce qui se passe de l'autre côté, etc., mettre un tabouret, etc. Donc ça, c'est
aventureux et curieux.
Et curieux, exactement. Donc, ne jamais laisser de meubles, de tabourets sous les fenêtres ou sur le balcon. Et puis, bloquer l'ouverture des fenêtres. Maintenant, il y a des systèmes qui sont tout à fait adéquats et qui permettent justement de limiter ces risques.
Ok. Quand il y a une chute, Annie, quels sont les indicateurs qui vont dire aux parents qu'il faut aller consulter, qu'il faut voir un médecin ou pour pouvoir évaluer de la gravité de la chute, parce que les enfants font plein de mini-chutes.
Oh, qui
ne vont pas nécessiter forcément une consultation chez le médecin ou d'aller aux urgences. Donc, voilà, comment faire la distinction entre les deux?
Alors, déjà, si l'enfant chute d'une faible hauteur et qui pleure tout de suite et qui ne change pas de comportement, on est plutôt rassuré. Il a une bosse, on met un petit peu de glaçon dessus, du froid, et puis on donne éventuellement du paracétamol s'il a mal. Mmh. Par contre, quelle que soit la chute, il faudra le surveiller pendant 48 heures. Et s'il y a un comportement anormal, consulter absolument. C'est-à-dire que si l'enfant est somnolent, s'il vomit, s'il a des difficultés à se tenir debout, etc., à ce moment-là, il faudra consulter aux urgences. Alors, maintenant, les signes qui sont importants à considérer comme des signes d'alarme, c'est l'âge de l'enfant. Si l'enfant a moins de 3 mois, on sait que le cerveau est plus fragile, qu'il y a des risques de rupture vasculaire, etc. Donc, il faudra plutôt consulter. Mmh. Si il tombe sur la tête aussi, si le choc a été violent également. Hein. Alors, les critères sont les suivants. C'est-à-dire que si, avant 2 ans, s'il chute de 90 cm, ou bien après 2 ans, c'est 1,50 m. Et si la chute a été très violente, c'est-à-dire s'il y a eu un effort, il était en train de courir, par exemple, et d'un seul coup, avec la vitesse, le choc devient un peu plus violent. Mmh. Voilà. Et puis, un enfant qui tombe et qui perd connaissance égale urgence et il faut absolument consulter. Donc, il faut être vigilant. La plupart du temps, petit bobo, banal, un glaçon, mais les signes d'alarme que je vous ai donnés, il vaut mieux consulter pour rien, surtout si l'enfant est petit. Voilà.
Oui, j'allais dire, si le bisou magique marche, c'est qu'on est dans une petite chute, voilà, pas grave.
Exactement.
À partir du moment où le bisou magique ne marche plus, voilà, voilà. Évidemment, on va adapter ce qu'on va faire en tant que parent. Alors, l'été est là. Il y a de nombreux parents qui vont passer les vacances au bord de la mer, au bord d'une piscine, en tout cas au bord d'un point d'eau. Quelles sont les règles à respecter pour éviter les noyades, voilà, qui sont, notamment en période estivale, un accident domestique très fréquent?
Un enfant peut se noyer dans 20 cm d'eau.
Donc il peut se noyer dans son bain aussi,
dans la baignoire. En quelques minutes, sans un bruit. Les histoires qui sont racontées sont toujours des histoires où finalement on arrive une minute trop tard. C'est-à-dire que l'enfant était en train de jouer avec des petits copains, etc., sur la pelouse, et puis d'un seul coup, il se met à aller, il a envie d'eau, donc il va dans la piscine, et d'un seul coup, ça arrive, et quelquefois, c'est trop tard, donc il faut vraiment faire très attention. Donc, d'une manière générale, il faut que votre enfant soit toujours sous surveillance. Vraiment, c'est très, très important. Alors, dans le bain, bien entendu, c'est la règle. Hein. On a vu qu'il pouvait se brûler, mais on a vu aussi qu'il peut se noyer. Même si on a, vous savez, il y a des dispositifs de tapis anti-glissants, de supports, etc. Mmh. Ce n'est pas du tout des règles de sécurité. Hein. Il peut quand même bouger, tourner et se noyer. Donc, ne jamais s'éloigner, même quelques secondes, et toujours mettre à l'avance, comme pour la table allongée, ce dont on a besoin. Le savon, la serviette, etc. Et alors, une chose très, très importante, c'est surtout ne jamais répondre au téléphone ou aller ouvrir la porte quand un enfant est dans le bain. C'est toujours comme ça que ça arrive. Hein. C'est le moment d'inattention. Alors, pour la baignade, et c'est la même chose, les règles sont simples. C'est-à-dire que ne jamais le laisser seul. Et quand il va être dans l'eau avec vous, il faut que vous puissiez l'avoir à un bras. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, vous avez la possibilité de le reprendre d'un seul coup et de le sortir de l'eau. Les gilets de sauvetage. Donc ça, c'est très important pour les enfants qui ont moins de 3 ans et qui ne savent pas nager. Alors, vous avez vu que y a plein de choses qui sont vendues dans le commerce, mais les choses ne sont pas forcément homologuées sécurité. Notamment les brassards, théoriquement, les maillots où il y a des petits boudins, vous savez, pour flotter. Alors ça, c'est pas sécuritaire du tout. L'idéal, c'est d'avoir carrément le gilet de sauvetage qu'on met à l'enfant pour qu'il puisse être protégé. Donc, ça, c'est important. Il faut que les piscines soient sécurisées, c'est-à-dire qu'il y ait un système de sécurité avec des barrières, éventuellement une alarme. Alors, les alarmes ne fonctionnent pas forcément, mais en tout cas, une clôture fermée qui doit être au moins 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur autour de la piscine. Et il faut que l'accès à la piscine puisse se faire par une porte qui sera verrouillée, fermée. Il faut que l'enfant ne puisse pas avoir un accès direct comme ça à la piscine. Voilà.
Et puis à partir de 2 ans, maintenant, il existe des cours où on apprend aux enfants à flotter, à respirer. Exactement. Sous l'eau, sans forcément tout de suite apprendre à nager. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui existent pour aider les enfants à appréhender l'eau. Mmh. Et même s'ils ne savent pas nager, ils peuvent apprendre à rejoindre le bord d'une piscine, par exemple.
Alors théoriquement, de plus en plus d'enfants maintenant ont des... Enfin, les parents inscrivent les enfants à des cours de bébés nageurs quand ils sont très petits. Et c'est vrai que ça les familiarise avec l'eau. Et les parents, effectivement, apprennent là des gestes importants. Tout à fait.
Si un enfant se noie, qu'est-ce que doit faire un parent, un proche, un adulte, voilà, qui est témoin de ce qui se passe?
Ah, c'est terrible. C'est quelque chose de difficile à appréhender. Alors, s'il est conscient, il faut le sortir de l'eau et le mettre en position de sécurité, en position latérale, et puis essayer de le réchauffer, de le rassurer le plus possible. Et il faut aller aux urgences si on a l'impression qu'il ne récupère pas très bien, qu'il a du mal à respirer, qu'il a peut-être inhalé beaucoup d'eau. Et puis, si l'enfant a perdu connaissance, malgré ça, il respire, de toute manière, si on a l'impression qu'on n'arrive pas à le récupérer, il faut appeler absolument les pompiers ou le SAMU. Mmh. Toujours essayer de le mettre en position de sécurité. Et si on sait faire du massage cardiaque, si on sait faire du bouche à bouche, à ce moment-là, ne pas hésiter. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'encourage toujours les parents à essayer de s'initier à des gestes de secourisme pour qu'ils aient déjà vu. Alors, en plus, il y a tellement de vidéos maintenant qui montrent comment faire, etc. D'avoir déjà vu, le chemin est déjà fait et ça peut vraiment beaucoup aider. Voilà.
Bien sûr.
Mais il faut appeler les secours, effectivement.
Annie, il y a un autre accident qui peut arriver, c'est la question des morsures de chiens. Quelles sont là les règles à respecter? Comment on peut prévenir ces accidents-là?
Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire ne jamais laisser l'enfant seul et avoir aussi des règles de prévention en initiant l'enfant à ce que peut être un danger par rapport à un chien. C'est-à-dire qu'un chien, c'est un animal qu'il faut savoir respecter. Il ne faut pas aller l'embêter quand il mange. Il ne faut pas lui tirer la queue, etc. Et donc, c'est des règles simples de bon sens. Et quand on commence à dire aux enfants « ne va pas caresser le chien si tu ne le connais pas et si tu n'as pas la permission du maître », par exemple, toujours dire à l'enfant qu'on ne peut pas savoir dans quel état est ce chien-là et donc l'approcher timidement et puis ne pas l'agresser, en tout cas. Voilà. Alors, quelquefois, il y a des chiens qui sont extrêmement
agressifs.
Donc, bien dire à l'enfant que s'il se retrouve dans cette situation-là, qu'il reste immobile, qu'il ne bouge pas. Et très souvent, le chien va passer son chemin et l'enfant va avoir très peur, bien entendu. Mais surtout, ne pas escalader
une clôture, un grillage. Donc, rester immobile et puis ne pas regarder le chien, plutôt regarder ses pieds, par exemple.
Regarder ses pieds et puis... Si on a le sentiment que ce chien est éloigné et qu'il va être agressif, s'éloigner calmement. Voilà, passer son chemin calmement. Voilà.
Si un enfant se fait mordre, qu'est-ce que doit faire le parent?
Alors, il faut laver la plaie à grande eau avec du savon. Éventuellement, si les morsures ont fait saigner, il faut effectivement laisser saigner la blessure pour bien éliminer la salive de l'animal et puis mettre un antiseptique avec un pansement, bien s'assurer que l'enfant est bien vacciné contre le tétanos et puis vérifier le statut vaccinal de l'animal si on ne connaît pas, si ça se passe par exemple en pleine campagne, etc. Et puis il faut consulter si on a l'impression que la morsure se complique, c'est-à-dire s'il y a des signes d'infection. Si par exemple la peau est gonflée, rouge, que l'enfant a mal, qu'il a une douleur, une fièvre, Et à ce moment-là, ça nécessite un traitement en particulier avec des antibiotiques. Si la blessure est également dans une zone sensible, comme au visage par exemple, qui peut laisser des cicatrices, et puis si la blessure est très profonde et qu'elle saigne abondamment. Voilà.
Alors, il y a un autre risque d'accident, c'est celui des intoxications. Voilà, évidemment, durant les premières années de leur vie, les enfants portent tout à leur bouche. On parlait de leur curiosité, de leur soif de découverte et d'aventure. Alors, généralement, ils ouvrent les placards, ils découvrent plein de choses, des bouteilles, des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour éviter ces intoxications?
Il y a trois domaines. Il y a les médicaments, il y a les produits ménagers, et puis tout ce qui est produit de bricolage. Donc, les médicaments, il faut qu'il y ait une armoire à pharmacie, que les médicaments soient bien protégés, qu'ils ne se traînent pas comme des bonbons sur la table de nuit, etc. Et vraiment, y compris dans le sac à main. C'est vraiment très important. Les enfants sont attirés par ces couleurs-là. C'est un aspect qui est assez ludique, en fait. Et l'enfant va avoir envie de le porter à la bouche.
Alors, et puis, beaucoup de parents présentent le médicament pour quand l'enfant doit prendre un médicament, comme un bonbon.
Exactement. C'est pareil pour les produits ménagers. Mettre toujours ces produits-là en hauteur, fermer les placards, essayer que tous ces produits ne soient pas accessibles à l'enfant. Éviter aussi de transvaser des produits ménagers dans une bouteille, par exemple, d'une boisson que l'enfant pourrait prendre comme une boisson pour lui. Il y a eu beaucoup de brûlures œsophagiennes à cause de ça. Et toujours essayer d'utiliser des produits munis de bouchons de sécurité. Donc maintenant, je pense que les choses sont bien ancrées dans les esprits.
Et si l'intoxication arrive, quelle doit être l'attitude du parent?
Alors, c'est le centre antipoison. C'est un numéro que les parents doivent connaître. C'est un numéro extrêmement accessible. Je vais vous le donner. C'est le 01 40 05 48 48. Et il y a toujours une permanence.
Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 24, 7.
Et on vous donne des conseils et on vous demande ce que l'enfant a ingéré. Et en fonction de cela, vous avez des conseils. Sinon, il y a votre médecin traitant ou bien le SAMU. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est faire vomir l'enfant. Parce que la toxicité aller est aussi une toxicité retour. Si l'enfant vomit, c'est très important. Ne pas faire boire de lait, parce que ça aussi, c'est dans les croyances
populaires.
Et puis, lorsque vous avez affaire au centre antipoison, prendre toujours un échantillon du produit que l'enfant a ingéré. Voilà.
D'accord. Alors, il y a un autre type d'accident qui touche tous les enfants, c'est la question de l'étouffement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les enfants s'étouffent?
Alors, l'étouffement, c'est quelque chose de très, très anxiogène pour les parents. Alors, quand l'enfant est tout petit bébé, c'est une fausse route qui se passe mal. C'est-à-dire un petit bébé qui va avaler de travers et qui fait que, d'un seul coup, c'est la panique à bord parce que l'enfant va devenir tout rouge, va un peu suffoquer, tousser éventuellement et... Donc, ce qu'il faut faire absolument, c'est prendre l'enfant bien vertical et essayer de lui taper dans le dos, essayer d'aller à la fenêtre pour qu'il respire un petit peu d'air. Et le plus souvent, ça passe. Ces fausses routes-là, c'est des mauvais trajets. C'est-à-dire que l'enfant va boire et puis, au lieu de bien boire dans son œsophage, il va un petit peu inhaler de quelques gouttes de lait sur l'axe respiratoire. Alors, ces fausses routes-là, on apprend très vite aux parents à les gérer et c'est assez passager. Alors, c'est plus difficile avec les plus grands parce que, effectivement, les enfants plus grands, ils aiment tous les petits objets. Et puis, quand ils ont des frères et sœurs qui ont des Legos, des petites roues de voiture, etc., et tout, et qu'ils ont joué sur le tapis, l'enfant va être attiré par la perle étincelante, etc. Et effectivement, il peut s'étouffer avec ça, donc avec vraiment un rien. Et puis, en mangeant, par exemple, les petites cacahuètes, les petites olives, Tout ça, c'est des choses à proscrire. Quand on a un petit enfant dans son entourage, la table d'apéritif, il faut vraiment faire très, très attention. Et puis, il y a des choses dangereuses comme les piles, par exemple. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut entraîner des grosses brûlures œsophagiennes et gastriques. Donc, jusqu'à 4 ans, il faut absolument éviter de donner des petits aliments comme ça qui peuvent être ingérés de manière accidentelle, et puis garder effectivement une surveillance accrue pour prévenir ces accidents d'étouffement. Alors quand l'enfant va avoir du mal à respirer, eh bien effectivement il faut essayer de voir ce qui s'est passé, de dégager un petit peu les voies aériennes supérieures, de lui taper éventuellement dans le dos en faisant 5 bonnes tapes entre les omoplates pour essayer qu'il reprenne un petit peu sa respiration, et puis ne pas hésiter à appeler les secours rapidement. Voilà.
Là aussi, hein, il y a des gestes, là, je pense à la technique d'Amlich, voilà. Peut-être que certains, oui, qu'on peut faire pour les enfants, mais
qu'il faut apprendre.
Il y a un autre accident de la vie courante, qui est celui de la mort subite du nourrisson, hein, qui est souvent source de beaucoup d'angoisse chez les parents. Annie, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?
Alors, on appelle ça une mort inattendue. Tout se passait bien, et puis d'un seul coup, l'accident arrive. Ça concerne des bébés aux alentours de 2 à 4 mois. C'est toujours, en fait, avant un an. Ça touche à peu près un bébé sur 1000. Ça se produit pendant le sommeil. On a l'impression, sur un enfant en bonne santé, d'un seul coup, il s'arrête de respirer. Il n'y a pas de cause médicale apparente. Alors, on ne connaît pas les causes de ce syndrome. On connaît des facteurs de risque. Et on sait que depuis que l'on met les enfants à dormir sur le dos, la fréquence de la mort subite du nourrisson a terriblement diminué.
Certains parents très anxieux achètent des moniteurs, il y a des petits tapis, voilà, qu'on branche, qu'on met sous le matelas sur lequel on va faire dormir l'enfant, qui va sonner si l'enfant arrête de respirer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les autorités médicales ne recommandent absolument pas ces systèmes, qui sont des systèmes de surveillance qui n'ont pas fait du tout la preuve de leur efficacité. En plus, ce sont des appareils qui sonnent tout le temps, qui sont extrêmement anxiogènes pour les parents et qui perturbent terriblement le sommeil du bébé. Donc, vraiment, il y a des mesures de prévention qui sont importantes à détailler. Je vais vous les donner. Mais nous ne sommes absolument pas pour les monitorings. Non, ça, pas du tout. Voilà.
Oui, mais moi je vois bien d'ailleurs, les parents qui ont acheté ça, ça a plutôt tendance à nourrir leur angoisse qu'à abaisser leur angoisse.
Oh oui, tout à fait. Oui.
Alors il y a autre chose qui peut arriver, c'est quand l'enfant s'égare, comment on peut prévenir en tant que parent, voilà, et permettre de donner les bons outils à son enfant pour bien réagir.
Alors en général, ça c'est la panique à bord. Hein. C'est dans le centre commercial, dans un parc, etc. C'est vraiment... c'est très difficile. Donc la règle, c'est de ne pas laisser un enfant seul avant 7 ans. Hein, essayer de le dans un endroit public qui soit surveillé, sinon qu'ils disent en fait où il va, qu'on puisse l'y autoriser, de savoir où il va, qu'il demande un peu la permission. Donc ça, c'est très important. Ce qui est assez astucieux, c'est de dire le plus tôt possible à son enfant son âge, son nom, son âge, son numéro de téléphone. Alors, sous la forme d'une petite comptine, par exemple, où on va lui apprendre son nom, son âge, son adresse, pour que, éventuellement, s'il se perd, qu'il puisse restituer cette comptine à quelqu'un qui pourra l'identifier et puis faire une annonce éventuelle. Voilà, donc...
Annie, au vu de tout ce que vous venez de nous dire sur les accidents domestiques, est-ce qu'il faut tout barricader dans la maison ? Est-ce qu'il faut mettre de la mousse à chaque coin de table ? Voilà, est-ce qu'il faut empêcher les enfants de tomber, les interdire, leur interdire d'aller dans les escaliers ?
Alors non. Le métier de parent est un métier très difficile où il faut jongler entre le fait que cet enfant ait besoin de se développer dans ses apprentissages, faire son expérience et devenir de plus en plus autonome, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, il faut lui apprendre le danger. Il faut lui apprendre les risques qui sont inhérents au fait qu'il est tout petit, qu'il ne sait pas encore tout à fait ce qui peut se passer pour lui. Et donc, bien sûr qu'il faut sécuriser la maison avec des choses simples qu'on a données tout à l'heure, mais il ne faut pas non plus l'entraver dans ses découvertes. Et quand on l'aide à découvrir avec un œil vigilant, mais aussi un œil un peu permissif, où on va lui dire « Attention, là, je ne vais pas te tenir la main pour monter les escaliers, je vais être derrière toi et tu vas monter les escaliers, tu vas me montrer comment on monte les escaliers. » Et c'est cet apprentissage qui est un apprentissage progressif qui va l'aider à évoluer dans le bon sens. Voilà.
En tout cas, voilà, on a bien vu que la maison peut être un lieu de danger pour les enfants. Et comme vous venez de nous le dire, Annie, à travers tous vos conseils, la vigilance est vraiment de mise pour les parents. Voilà, acquérir des gestes simples, se former aux gestes de premier secours, effectuer quelques aménagements dans la maison permettra à chacun, parents et enfants, d'être le plus en sécurité possible. Et puis, comme vous venez de nous le dire, vraiment d'aider l'enfant à développer son autonomie, lui expliquer le danger, la raison de certains interdits, le rendre responsable va aussi l'aider à prendre conscience de ce qui l'entoure et à s'en protéger. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Annie, est-ce que vous auriez des recommandations à faire aux parents qui nous écoutent ?
Alors, il y a énormément de choses. Quand on va sur Internet et qu'on s'intéresse à ce domaine-là, il y a eu énormément de campagnes pour informer les gens des parents des accidents domestiques et notamment des campagnes faites par santé.gouv, par exemple, prévention des accidents domestiques. Il y a eu une grande, grande campagne en 2009 avec des brochures qui étaient distribuées dans les PMI et un peu partout. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est très imagé et ça montre un petit peu comment on aménage la cuisine, la salle de bain, etc. Il y a Santé publique France aussi qui a fait pas mal de communication à ce niveau-là. Et puis, il y a des sites qui sont plus pédiatriques, qui sont le site Mpédia qui est fait par des pédiatres de l'AFPA, et puis Agir pour bébé, qui est une réalisation de Santé publique France, où on donne aussi énormément de conseils sur la sécurisation de la maison. Voilà. Donc vous avez vraiment énormément de documents, d'images et de vidéos qui sont importantes. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je recommande vraiment que les parents s'initient à la pratique des premiers secours. Et il y a la Croix-Rouge, il y a des tas d'organismes qui organisent ça et qui le font très très bien. Et les parents sont contents. Ils vraiment sont contents.
Oui, de prendre une après-midi pour ça peut vraiment valoir
exactement.
Le coup.
Exactement. Voilà.
Un très grand merci, Marie, d'être venue partager votre vécu face à l'accident de votre fils. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, docteur Annie Elbez, d'avoir partagé avec nous tous vos conseils afin d'aider les parents et leurs enfants face à ces situations qui, si on peut les prévenir, les choses se passent mieux, évidemment. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre à Maison Alfort. Nous allons vous retrouver dans un second épisode complémentaire à celui-ci dans lequel nous allons discuter ensemble des questions de protection et de surprotection des enfants. Merci à toutes les deux. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.